Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h43, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français à l'étranger et de la francophonie.
Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne.
Bonjour.
Avant de parler du tourisme, d'abord la situation en fait actuelle face au Covid, un tour de vis du côté de Marseille, les Bouches-du-Rhône et Bordeaux, des interdictions notamment qui concernent la vie privée, hein, des rassemblements de plus de 10 personnes, mais aussi les interdictions de soirées dansantes, les journées du patrimoine, etc. Ce sont des décisions utiles, selon vous, Jean-Baptiste Lemoyne, pour éviter un éventuel reconfinement général ?
Oui, effectivement, vous l'avez dit, le but, c'est éviter un reconfinement général. Et ça veut dire prendre un certain nombre de mesures pour essayer d'endiguer cette circulation plus active du virus. Donc, c'est vrai que ce sont des efforts qu'on demande, mais je crois que pour la sécurité sanitaire de tous, eh bien, il y a besoin que chacun nous fassions toujours attention avec ces gestes barrières, qu'on évite les grands flux de population qui se croisent. C'est pourquoi la jauge d'un certain nombre d'événements a été ramenée de 5000 à 1000 personnes dans ces départements en particulier, et qu'il est demandé de faire très attention dans sa vie sociale. Ouais. Encore une fois, regardez, il y a des pays qui ont annoncé un reconfinement total, c'est le cas d'Israël, ouais. Et donc je crois qu'il faut
c'est
tout
le seul
faire.
Pour l'instant, hein,
oui,
je crois.
Oui, mais il faut tout faire pour éviter cela. On se souvient de ces mois qui ont été, je crois, très très compliqués en mars-avril, et puis aussi de toutes les conséquences économiques et sociales qui découleraient d'un tel reconfinement.
Oui, Jean-Baptiste Lemoyne, ce qui est difficile aussi, c'est la jeunesse. Évidemment, les étudiants qui ont envie de se rassembler, de se retrouver, parce que c'est la rentrée étudiante, ils ont été en partie verrouillés pendant quelques mois. On ne peut pas les empêcher quand même de se retrouver, quoi, non ? Ce serait une jeunesse sacrifiée.
Là, je suis désolé. L'appel à la responsabilité, il concerne tout le monde. Il concerne les jeunes. Je sais que quand on est jeune, on a envie parfois, effectivement, de se retrouver entre amis, de faire la Java, si je puis dire. Ouais. Mais aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec le virus. Et c'est une vie qui est un peu différente.
Donc
on doit s'adapter.
Rencontrez-vous, mais ayez les bons gestes, les bons réflexes.
Beaucoup de maires aussi ont pris des arrêtés, ont fait en sorte que, il n'y ait pas de fêtes nocturnes, clandestines, etc. Parce que ça favorise la diffusion du virus quand c'est fait, effectivement, sans précaution.
Oui, la doctrine, c'est maintenant territoire par territoire. Ce n'est pas une décision nationale et ce n'est pas Jean Castex qui va nous dire on arrête tout, on reconfine.
La situation, elle est très évolutive, effectivement, selon les territoires. Et le Premier ministre porte profondément en lui cette approche girondine des choses. Et il faut à chaque fois des réponses qui soient sur mesure, adaptées à chacun des territoires.
Ah oui. Alors, Jean-Baptiste Lemoyne, vous occupez du tourisme, hein, notamment. Avant de voir le bilan de l'été, peut-être un point sur cette arrière-saison. En règle générale, le mois de septembre est plutôt bon. Là, nous étions avec un patron des restaurants hôtels à Marseille. Il disait, évidemment, avec toutes ces annulations, on le ressent, en fait, aujourd'hui. Il y a moins de monde, quoi.
Alors,
quelle est la situation ?
La situation, elle est contrastée. C'est-à-dire qu'il y a une extrême sensibilité des gens par rapport justement à la situation sanitaire. Donc, des territoires dont on a parlé, par exemple Marseille, la Gironde, c'est dans l'actualité nationale, il y a souvent un contre-coup dans les annulations, dans les chutes de réservation. À l'inverse, d'autres territoires dans lesquels la situation est perçue comme sécuritaire, à ce moment-là, on rencontre toujours un succès. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment cette volatilité selon l'état de la situation sanitaire. Et donc, par exemple, du côté de la Nouvelle-Aquitaine, côté Pyrénées-Atlantiques, j'ai de bons échos sur l'arrière-saison et ce mois de septembre.
Un petit peu plus bas.
Donc, contrasté et ça renvoie aussi d'ailleurs au bilan de l'été, qui a été un bilan globalement positif. Je dirais qu'on a sauvé les meubles, on a sauvé la saison, mais il y a eu des très belles performances, par exemple sur le littoral, dans le Var.
Est-ce que vous avez des chiffres, alors, Jean-Baptiste Lemoyne ?
Quelques chiffres, par exemple. Ouais. On a eu globalement un taux d'ouverture des hôtels de 80%, avec sur les zones littorales, ça frôlait les 100%, mais en revanche, quand je parlais de contraste, c'est que à Paris, dans l'hôtellerie haut de gamme, il y en avait seulement 29% qui étaient ouverts. Donc on voit bien que les choses sont très différentes sur les territoires. Globalement, les Français ont entendu cet appel à un été bleu-blanc-rouge, puisqu'ils ont été 94% à partir en France. C'est quasiment 25 points de plus qu'en temps normal. Donc les Français ont redécouvert la France, et vous le savez, on peut faire le tour du monde en faisant le tour de France, tellement il y a une variété justement de paysages, d'expériences possibles.
On a un chiffre en revanche du nombre de touristes étrangers qui sont venus cet été ou pas ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur les touristes étrangers, les recettes internationales, on les a divisées par deux, le nombre de, les recettes internationales. D'habitude, sur cette période-là, on fait 25 milliards d'euros. Là, on en a fait 12,5. Ça veut dire moins 50%, parce que les clientèles lointaines, les Chinois, les Américains, les Russes, ne pouvaient pas venir. Et donc, c'est un manque à gagner, notamment pour beaucoup de métropoles. Paris, le Louvre, le musée de Versailles, par exemple, ont accueilli seulement 20% des publics qu'ils accueillent d'habitude. Mais je dirais que quand on se regarde, on se fait peur, mais quand on se compare, on se rassure, parce que nos voisins italiens ou espagnols, eux, ils ont plongé de l'ordre de 75 à 80% en matière de tourisme international. Donc, je crois que la France a quand même bien résisté grâce à des clientèles européennes de proximité.
Alors, et là, aujourd'hui, est-ce qu'ils reviennent, ces touristes étrangers où en est-on, justement, pour les touristes mondiaux? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Est-ce qu'ils ont le droit de revenir en France?
Aujourd'hui, les clientèles européennes, il y a une circulation qui est plus facile que les clientèles extra-européennes. Parce que aujourd'hui, nous avons encore des frontières qui demeurent fermées avec beaucoup de pays en dehors de l'espace Schengen. Et ça veut dire que, concrètement, sur ces clients, encore une fois, américains, chinois, russes, etc., on est dans une situation qui reste encore difficile et entravée.
Mais il y en a quand même. Il y a des touristes chinois,
Non ? Il y a uniquement des dérogations possibles pour certains cas professionnels, etc. Mais très clairement, aujourd'hui, le moteur du tourisme, c'est un moteur français et c'est un moteur européen de proximité. Moi, j'avoue que je vais continuer avec Atout France à faire la tournée des États membres de l'Union européenne pour dire à ces Européens que la France reste une destination qui leur déroule le tapis rouge et qui prend toutes les précautions sanitaires. Je veux le dire, les professionnels, ils mettent en place des protocoles. Depuis le début, ils sont hyper responsables. Et donc, l'expérience client, elle peut être là aussi.
À propos d'étrangers, est-ce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas été remboursées des voyages annulés aujourd'hui ?
Alors, vous savez, on a mis en place en mars, justement, ce qu'on appelle un avoir. Donc, les agences de voyage ont proposé, lorsqu'elles ont vendu des forfaits, de reporter le déplacement. Et d'ailleurs, il y a eu pour 1 milliard d'euros de voyages qui ainsi ont fait l'objet d'avoir, de report. Et donc, les personnes feront ces voyages lorsque la situation le permettra.
Si ça le permet, sur 18 mois. Mais là, on est dans l'inconnu, quoi.
En cas de pépins, au bout de 18 mois, ils peuvent demander à être remboursés. Donc ce qui est sûr, c'est que, en tous les cas, les agences de voyage, je peux vous dire, elles se sont mises en quatre pour satisfaire le client au mieux. Ils se réunissent d'ailleurs en assemblée générale tout à l'heure, les entreprises du voyage. Je serai à leur côté parce qu'ils connaissent, je dirais, dans les acteurs du tourisme, c'est ceux qui ont des situations les plus compliquées parce que les Français sont partis en France, mais du coup, ils ne sont pas partis à l'étranger. Or, ces agences de voyage, elles vendent des séjours à l'étranger. Et donc, ils se retrouvent avec un chiffre d'affaires de 5 ou 10%. C'est très compliqué, je veux leur dire, à votre antenne, qu'on continuera à être à leur côté dans la durée.
Alors, à leur côté, c'est-à-dire ?
À leur côté, ça veut dire continuer à les accompagner avec du chômage partiel.
Le chômage partiel, de
voilà,
nouveau.
Voilà, exactement. Ouais. Aussi, travailler sur le fonds de solidarité. Je pense qu'il y a peut-être des petits curseurs qu'on peut bouger. J'y travaille avec Alain Griset pour que plus d'entreprises y aient accès au sein de ces entreprises du voyage. Parce que, encore une fois, on a là des talents, des savoir-faire. La France, elle a un appareil de distribution de voyages qui est très performant, donc il faut le maintenir.
Est-ce que les grands établissements sont en danger aujourd'hui ? Je pense au château de Versailles, au musée du Louvre, par exemple, tous ces grands lieux qui reçoivent une clientèle internationale qui n'est plus là aujourd'hui.
Alors, ces grands lieux subissent de plein fouet cette crise. Ils sont néanmoins adossés à un certain nombre d'acteurs publics. Mais c'est vrai que les recettes liées au tourisme international ont quasiment disparu. Et puis aussi, beaucoup d'entreprises ont revu toutes les politiques de mécénat ou d'événementiel. L'événementiel reste un secteur qui est aussi, touché très, très, très gravement. Et donc, il y a des manques à gagner, indéniablement. Mais je sais que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est également très mobilisée pour accompagner ces acteurs du patrimoine et de la culture. Il y aura des journées du patrimoine d'ailleurs dans quelques jours, sauf dans les endroits où
il peut y avoir d'autres annulations.
À Marseille.
Est-ce que c'est raisonnable d'ailleurs de maintenir ouvertes ces journées du patrimoine ce week-end? Sur tout le territoire.
Ce qui compte, c'est la mise en place de protocoles très rigoureux qui permettent la circulation.
Alors qu'aujourd'hui, on est en train de dire, l'épidémie repart, et puis on maintient ces journées du patrimoine.
Vous savez, il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. Ça veut dire s'adapter, ça ne veut pas dire mettre fin à toute activité.
Et s'adapter, ces journées du patrimoine, est-ce que c'est indispensable?
Écoutez, ça fait partie en tous les cas de la vie sociale. Et encore une fois, il faut faire en sorte que cette vie sociale puisse être adaptée, mais ça ne veut pas dire la supprimer. On a là affaire aussi à des professionnels de la gestion des flux. Et je crois qu'il faut savoir leur faire confiance. Ils sont eux-mêmes éminemment responsables. Et quelque part, il faut aussi montrer que triompher du virus, c'est triompher d'une atmosphère un peu mortifère qu'il circule.
Voilà. Mais là, vous ne conseillez quand même pas d'aller à Bordeaux et à Marseille, si.
Ah non, mais d'ailleurs, il a été un certain nombre d'événements liés aux journées du patrimoine dans ces villes ont été suspendus, ont été annulés. Donc encore une fois, c'est le terrain qui commande, c'est la situation sanitaire dans chacun des départements. 42 départements sont en zone rouge, mais ça veut dire qu'il y en a près d'une soixantaine qui ne le sont pas. Donc je crois qu'il faut avoir des appréciations, encore une fois, basées sur la réalité des faits dans chacun des territoires.
Oui, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Jean-Baptiste Lemoine.
Oui, le Tour de France, qui est l'une des compétitions sportives les plus regardées dans le monde, excellente surtout pour le tourisme, a été taxé de polluante et machiste par le maire écolo de Lyon, Grégory Doucet. Est-ce que dans ce contexte un peu compliqué pour le tourisme, c'était vraiment le moment de faire ça? Et est-ce que les élus ne doivent pas plutôt se serrer les coudes?
Moi j'avoue que ce Tour de France, c'est une chance énorme pour la France, parce que ça permet à des dizaines et centaines de millions de gens dans le monde de découvrir la France vue du haut, filmée par les hélicoptères, par les motos qui sont autour des coureurs, et c'est une vitrine pour la France qui est formidable. Donc moi je dis total respect à Christian Prudhomme, à toutes les équipes qui font vivre le Tour de France, et je trouve que les polémiques des élus verts, sont un peu mal placées. Il y a celle-là, vous savez, moi qui suis un élu de Lyon, nous avons le Morvan, avec beaucoup de sapins qui, l'hiver, prennent la route.
Il faut les laisser, les sapins, il ne faut plus les couper là maintenant.
Prennent la Seine pour justement pavoiser nos maisons. Quand je vois le maire de Bordeaux qui s'en prend aux sapins, écoutez, ils n'ont rien demandé, les sapins. Il y a des traditions qui méritent d'être respectées. C'est le cas du Tour de France.
C'est clair. Merci, Jean-Baptiste Lemoine était notre invité ce matin, secrétaire d'État en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. À propos des Français de l'étranger, il y en a encore qui sont bloqués ou pas? Pas rentrer.
Écoutez,
d'un mot.
Nous sommes à leur côté. Ceux qui étaient de passage, qui étaient bloqués, ont pu revenir. Maintenant, il y a aussi une communauté qui vit à l'étranger. Et nous avons déployé avec Jean-Yves Le Drian un plan à la fois sanitaire pour pouvoir les accompagner, parce qu'il y a des pays dans lesquels il est compliqué d'avoir accès à des soins. On fait des évacuations sanitaires en cas de besoin. Et puis aussi un plan pour accompagner les familles qui sont touchées économiquement pour qu'elles puissent continuer à scolariser leurs enfants, notamment dans les lycées français. Parce que c'est des coûts de scolarité qui sont souvent importants. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la rentrée, c'est quand même bien passé aussi là.
Merci Jean-Baptiste Lemoine.
Et dans quelques instants, on parlait du Covid-19, sur l'impact sur le tourisme, on parlera de l'impact sur le rugby bordelais. Restez avec nous, 7h58, c'est à suivre sur Sud Radio.